Paul Féval, Le médecin bleu, chapitre 1, Sainte. Le bourg de Saint-Yon est pittoresquement assis sur la croupe d'une colline dont le sommet se couronne d'arbres séculaires. Au pied de cette colline s'étend un vaste marais, sorte de lac qui baigne à perte de vue la campagne de Redon et les extrêmes limites du département d'Ille-et-Vilaine. Le bourg est composé d'une seule rue, dont les maisons grises et couvertes d'en chaume s'étachent en amphithéâtre. À voir cette chaîne de maisons descendre tortueusement la montagne, on dirait de loin un serpent gigantesque, endormi au soleil, en buvant l'eau tranquille des marais. En l'année 1794, M. de Vauduit était propriétaire du manoir de Rieux, antique résidence des seigneurs de ce nom, et situé à une demi-lieue au plus de Saint-Yon. M. de Vauduit était un homme d'une cinquantaine d'années, froid, sévère et taciturne. Les uns disaient qu'il était républicain fougueux, ayant donné pour preuve l'empressement qu'il avait mis à se rendre possesseur du château de Rieux, au préjudice de la marquise Douairière d'Ouessant, dernière dame de Rieux, alors réfugiée en Angleterre. Les autres prétendaient au contraire qu'il était secrètement partisan des princes exilés et que le château n'était entre ses mains qu'un dépôt dont il conservait précieusement la propriété à ses maîtres légitimes. Cette seconde opinion était la mieux accréditée et assurait à M. de Vauduit une sorte de popularité dans le pays. Car il est à peine besoin de le dire à nos lecteurs, les campagnes bretonnes n'avaient point un fort grand amour pour le gouvernement républicain. Au reste, tous les bruits qui couraient sur M. de Vauduit étaient des conjectures plus ou moins probables, mais pas autre chose. Sa porte, en effet, restait habituellement close. Il ne voyait personne, si ce n'est parfois Jean Bran, ancien bedeau de Saint-Yon, au temps où l'église était ouverte, et le docteur Saulnier, médecin du bourg. Le citoyen Saulnier avait avec M. de Vauduit quelques traits de ressemblance morale. C'était un homme froid et sévère, mais ses opinions républicaines, poussées à l'excès, n'étaient un mystère pour personne. Et comme les paysans des alentours, qui s'étaient déjà soulevés plusieurs fois contre la Convention, donnait aux soldats réguliers le sobriquet de bleu, on ne connaissait guère le docteur, depuis Redon jusqu'à Carantoire, que sous le nom de médecin bleu. Il n'était point aimé dans le pays parce qu'il s'était joint à diverses reprises, en qualité de volontaire, aux colonnes républicaines qui pourchassaient les chouans. Mais on s'accordait à reconnaître qu'il était médecin habile, et son talent lui était un boulevard contre la malveillance publique. Une autre cause encore diminuait le mauvais vouloir des paysans. Le docteur avait une fille, objet de respect et d'amour de tous. Elle avait nom Sainte et entrait dans sa 14e année. Mais ceux qui ne la connaissaient point, en voyant son enfant d'un sourire et la candeur angélique de son front, lui aurait donné 2 ans de moins. Parfois, pourtant, quand elle était loin de la foule et qu'elle donnait son âme à cette rêverie que souffle la solitude, on aurait pu voir son grand ciel œil bleu s'animer sous les cils à demi baissés de sa paupière. Sa charmante tête alors devenait sérieuse, ses lèvres se rejoignaient et cachaient l'éblouissant émail de ses dents. La ligne de ses sourcils, si noire et si pure qu'on aurait pu croire tracée par le pinceau d'un peintre habile, s'affermissait et tendait la courbardie de son arc. Tout son visage, en un mot, dépouillant l'indécise gentillesse des premières années, revêtait la beauté d'un autre âge. En Bretagne, où tout est matière à superstitieux pressentiments, ce nom de sainte et la précoce mélancolie qui assombrissait aussi parfois sans motif, ce radieux visage d'enfant, semblait un présage de mort prochaine. Quand elle passait, les paysans se découvraient et les femmes tirent leurs plus belles révérences. « Bonjour, notre demoiselle, » disait-il. Puis se retournant, il regardait avec une naïve admiration la légèreté de sa démarche et ajoutait, en se signant dévotement, « Oh Dieu la bénisse, sera bientôt un ange de plus dans le ciel. » En attendant, c'était un ange sur la terre. Il n'y avait pas dans tout le bourg de pauvres cabanes dont elle n'eût plus d'une fois passé le seuil. Elle allait partout porter aide et consolation. La souffrance semblait fuir l'aspect de son frais et doux visage, et les cris de douleur se changeaient quand elle apparaissait en murmures d'allégresse et de bénédiction. Sainte avait une amie, c'était la fille du ci-devant bedeau de Saint-Yon, Marie Brande. Marie, aussi belle peut-être que sa compagne, avait un bon cœur et une mauvaise tête. Elle était fière, outre mesure, ce qui lui semblait bien ridicule chez la fille d'un pauvre paysan. Si Marie, spirituelle et parlant comme on parle dans les villes, n'eût point été mieux élevée que ses compagnes. Il y avait 4 ans seulement qu'elle habitait le toit de son père. Jean Bran, qui était veuf, l'avait amenée un jour de bien loin, disait-il, sans s'expliquer davantage. Or, on savait au bourg de Saint-Yon que Jean Bran n'aimait point les questions indiscrètes. Pendant les premiers mois qui suivirent l'arrivée de Marie, Sainte et elle s'étaient liées d'une étroite amitié. Elles avaient mis en commun leurs joies et leurs chagrins d'enfant. Elles s'étaient confiées leurs petits secrets, révélées leurs plans d'avenir, dévoilées ces fantastiques et mystérieux espoirs qui naissent au cœur des jeunes filles. Le citoyen Saulier avait paru voir d'abord sans répugnance cette intimité. Mais lors du premier soulèvement du Morbihan, qui eut lieu en 1791, Jean Bran fut soupçonné d'avoir fait partie des insurgés. Depuis ce jour, Sainte reçut l'ordre de ne plus voir Marie. Elle pleura, mais elle obéit. Chapitre 2. Le rôle d'une femme. Sainte n'était pas l'unique enfant du médecin bleu. Elle avait un frère qui, depuis 2 ans, avait quitté le foie paternel. René Saulnier était un grand et fort jeune homme à la physionomie hautaine. Du temps de son enfance, il avait été le favori du docteur qui voulait en faire un soldat. À cette époque, c'est-à-dire 5 ou 6 ans avant la date de notre récit, le bourg de Saint-Yon présentait un tableau champêtre plein de vie et de bonheur. Il y avait au manoir une châtelaine aussi compatissante que riche et qui ne voulait point qu'il y eût de malheureux sur ses domaines. Aux environs, une 12aine de gentilhommières étaient peuplées de ces hobereaux compagnards si pullulants en Bretagne, dont la tête est aussi folle que le cœur est loyal, et qui parlent entre les 4 murs enfumés de leur cabane des royaumes conquis autrefois en Syrie par leurs fabuleux ancêtres. Madame de Rieux, veuve du marquis d'Ouessant, dominait toute cette plèbe noble, et le fils de Saunier, le jeune René, était admis chez elle. Monsieur de Vauduit, pauvre gentilhomme et parent éloigné de la maison de Rieux, était l'intendant et le commensal du château. Lui, le docteur Saulnier et l'abbé de Kernas, alors curé de Saint-Yon, formaient une petite société d'amis. L'honnête curé s'occupait de l'éducation religieuse de René Saulnier et de Sainte, sa sœur, qu'il aimait comme un père aime ses enfants. Monsieur de Vauduit, ancien militaire, apprenait à René le maniement des armes. À 16 ans, René était un jeune homme, simple de cœur, fervent chrétien, dévoué à ce qu'il regardait comme ses bienfaiteurs. Il était de plus robuste, intrépide jusqu'à la témérité, maître passé au maniement de toute arme blanche, et si habile chasseur qu'on n'eût point trouvé son pareil à 10 lieues à la ronde. La révolution était venue, le bon curé avait été obligé de fuir, la famille de Rieux avait passé la mer, et les 12 ou 15 gentillâtres étaient allés se faire tuer dans l'armée de Condé. Seul M. de Vauduit était resté à Saint-Yon. Quant à René, la fuite de ses anciens compagnons de plaisir, et surtout celle du bon curé, lui avait mis au cœur une irritation profonde. Habitué à vivre au milieu des paysans obereaux, loyaux comme leurs épées, et ne pouvant juger le gouvernement nouveau que par ses actes, il se prit à le haïr. Du fond de son obscure retraite, il ne pouvait mesurer les motifs qui faisaient agir tous ces bras impitoyables. Son père, sincèrement imbu des doctrines républicaines, essayait souvent de le ramener à son parti, mais le jeune homme écoutait d'un air sombre et répondait « La République a chassé les habitants du pays. Elle a chassé monsieur le curé, dont la vie ne fut qu'une longue suite d'actions méritoires. Elle a chassé tout ce qui était noble, bon et beau. Je ne peux pas aimer la République. » Puis un jour, il prit son fusil double et partit sans dire adieu à son père. Sainte avait 12 ans. Elle pleura et pria bien son frère qu'il n'abandonna pas la maison paternelle, mais le jeune homme fut inflexible. « Sainte, dit-il en l'embrassant, tu ne sais pas, ma sœur, dans quelques mois, la circonscription viendra. On me fera soldat de la République. Oh, j'aime mieux mourir pour Dieu et le roi. N'est-ce pas une noble cause, ma sœur ?» Sainte ne répondit point. Au fond de son cœur, peut-être chacune de ses paroles trouvait un écho. Mais elle n'eût point voulu donner tort à son père. « Écoute, reprit René, d'autres motifs encore m'obligent à partir. Il se passe ici des choses que tu ne vois point et que tu ne sauras comprendre. Monsieur de Vauduit n'est pas ce qu'il paraît être. Jean Brande ne couche pas la nuit dans son lit, et l'heure approche où les bois de Saint-Yon retentiront du bruit des fusils. Mais oh, ce ne sera plus le joyeux fracas de la chasse. « Mais que veux-tu dire ?» s'écria Sainte. Un jour, oh, ce fut la dernière fois que je vis notre bon curé, en me disant adieu, il me baisa au front et je sentis une larme couler sur ma joue. « René, murmura-t-il à mon oreille, de malheureux temps vont venir. La guerre civile et ses fureurs rompent parfois les liens de famille. » « Quoi qu'il arrive, mon fils, souviens-toi du divin précepte et ne te fais pas l'ennemi de ton père. » Eh bien, cette parole est restée dans mon souvenir et je pars. » Sainte baissa douloureusement la tête. « Toi, ma sœur, mais toi qu'on aime, toi que nul malheureux ne peut voir sans se rappeler un bienfait ou une consolation, tu restes avec lui, tu seras son égide. Non, pour moi, mieux vaut l'abandonner que d'être forcé de le combattre. » Sainte frissonna de la tête aux pieds. « Pars, s'écria-t-elle, pars bien vite, mon frère. » René déposa un dernier baiser sur son front et disparut sur la route de Vannes. Il se faisait tard. Sainte reprit le chemin de la demeure de son père. En passant près de l'église, qui était fermée et déserte, elle s'agenouilla sur le seuil. « Mon Dieu, murmura-t-elle, faites que cette horrible crainte ne se réalise point. Ils sont bons tous les deux, et suivent la voie de leur conscience. Si l'un ou l'autre se trompe et que ce soit un crime, prenez ma vie, mon Dieu, mais ne permettez point qu'une lutte impie les rapproche et que... » Elle n'eut point la force d'achever. « Puisse Dieu vous exaucer, ma fille !» dit auprès d'elle une voix grave et triste. Sainte se releva vivement. Un homme enveloppé d'un manteau s'était agenouillé à ses côtés. Elle reconnut l'abbé Kermas, l'ancien curé de Saint-Yon. C'était un beau vieillard, la physionomie ferme et douce à la fois. Il s'était découvert. Les rayons de la lune, luttant contre les dernières lueurs du crépuscule, envoyaient à son front chauve, entouré d'une transparente couronne de cheveux blancs, un reflet indécis, presque fantastique. Sainte se sentit calmée par cette apparition inattendue. Elle s'inclina, comme elle avait coutume de faire autrefois devant le prêtre, et celui-ci prononça sur elle les paroles de la bénédiction. « Ma fille, dit-il ensuite, oh, ce que je craignais est arrivé, je le devine. Votre père, que je regarde comme mon ami, bien que l'abîme nous sépare désormais, n'a pu étouffer les convictions de René. Leurs opinions se heurtent et peut-être... » Mais René est parti, mon père, Dieu soit loué. On ne peut dire à un homme « change de croyance », mais on peut lui ordonner, au nom de la religion, de fuir quand il y a autour de lui des occasions de crime. Je comptais voir votre frère, sainte. C'était là le motif de ma présence en un lieu où je ne suis plus qu'un proscrit. « Ne pourriez-vous demeurer quelque temps parmi nous ?» demanda la jeune fille. « Le pays est maintenant tranquille. » « Tranquille !» répéta le vieillard en hochant la tête. « Oh, plutôt ciel qu'il en fût ainsi. Mais des signes que vous ne sauriez apercevoir annoncent une tempête à mes yeux plus clairvoyants. Non, je ne puis rester. Lors même que ma tranquillité personnelle serait assurée, je ne pourrais rester encore. Mon devoir m'appelle, ma fille, et la vie du prêtre n'est qu'une longue obéissance à la voix du devoir. » Il prit la main de Sainte et la serra entre les siennes. « Vous êtes bonne, continua-t-il, je puis le dire, moi qui lis dans votre jeune cœur, comme dans un livre ouvert. Si les orages politiques pouvaient être conjurés par l'influence d'une âme angélique, votre père et tout ce qui vous est cher seraient à l'abri. Mais c'est une haine folle et furieuse que celle qui pousse les uns contre les autres, les enfants d'une même patrie. C'est une haine implacable qui rend aveugle et sourd, qui durcit le cœur et le ferme à tous les sentiments de la nature. Priez Dieu, sainte, priez, mais travaillez aussi. Et souvenez-vous que dans ces luttes dénaturées, le rôle d'une femme chrétienne et tout de charité, de paix et de clémence. Commencez donc, enfant, votre rôle de femme, et soyez, au milieu de nos discordes intestines, l'ange de la conciliation et de la pitié. » Avant que la jeune fille eût le temps de lui répondre, l'ancien curé de Saint-Yon s'inclina profondément devant la croix de son église et disparut derrière les ifs touffus du cimetière. Sainte était triste, mais elle se sentait forte et courageuse. Ce rôle que le prêtre venait de lui tracer, c'était celui qu'elle avait choisi d'elle-même dès que sa jeune intelligence avait pu entrevoir et comprendre le malheur des temps. Chouan et Bleu étaient également ses frères. « Oh, je serai toujours du parti des vaincus, se dit-elle, et Dieu me récompensera en faisant qu'un jour mon père et mon frère se retrouveront et s'embrasseront. » Et elle rentra. La nouvelle du départ de son fils fut un coup terrible pour le médecin bleu. Jusqu'alors, il avait compté le ramener à ses propres croyances, mais tout espoir était désormais perdu. « J'ai donc assez vécu, s'écria-t-il, pour voir mon fils devenir le suppôt des tyrans. » Sainte n'essaya point en ce moment de prendre la défense de son frère. Il fallait, pour ce rôle conciliateur que s'était imposé, non seulement de la bonne volonté, mais aussi de la prudence et de l'adresse. Elle attendit. Ce soir-là, le citoyen Saulnier refusa de prendre part au modeste souper que lui avait préparé Sainte. Il se retira dans sa chambre en silence et passa la nuit en proie à une fièvre ardente. La fuite de René avait doublé tout d'un coup sa haine contre les partisans des princes exilés. Il accusait les Chouans d'avoir séduit son fils et de l'avoir entraîné dans leur ténébreuse association. Ce soupçon n'était point sans quelque fondement. René, pendant son séjour à Saint-Yon, visitait souvent, à l'insu de son père, la cabane de Jean Bran. Le ci-devant Benoît était trop prudent pour endoctriner lui-même le jeune homme. Il fallut se confier à lui, et Jean Bran ne se confiait à personne. Mais il y avait sous son toit un autre avocat dont l'éloquence avait un grand pouvoir sur le cœur de René. Marie Blandre était royaliste et elle portait dans la manifestation de son opinion la fougue ardente et indomptée qui était le fond de son caractère. Quand elle parlait de la mort de Louis XVI ou des innombrables meurtres par lesquels la Convention déshonorait sa cause, son œil flamboyait d'un éclat étrange. Sa voix d'enfant vibrait et atteignait un diapason presque viril. René dévorait la parole de la jeune enthousiaste. Sa haine propre se fortifiait de la haine de Marie, et il jurait mentalement de faire une guerre à mort à quiconque portait la cocarde aux trois couleurs. Il ne songeait pas que ses couleurs étaient celles du drapeau de son père. Sainte ignorait cette circonstance. Elle avait religieusement exécuté l'ordre du docteur et avait cessé depuis longtemps de voir Marie. Celle-ci, bien qu'elle habitât toujours la pauvre cabane de Jean Brande, avait pris des habitudes qui ne convenaient guère à la fille d'un paysan. Elle portait des robes de demoiselle et il n'était pas rare de la rencontrer dans les sentiers de la forêt, montée sur un magnifique cheval que n'aurait pas pu payer la vente du patrimoine entier de Jean Bran, et tenant à la main un petit fusil luxueusement orné, dont les garnitures d'argent envoyaient en gerbe les rayons du soleil. Cette conduite semblait à peine exciter la surprise des habitants de Saint-Yon. Jean Bran, avait-on coutume de dire, fait comme il veut, sa fille aussi, voilà tout. Quant au citoyen Saulnier, lorsqu'il parlait de Marie, il disait « Oh, il y a dans les veines bleuâtres qui diapre si délicatement la peau blanche et douce de cette main si fine. Oh, il y a du sang d'aristocrate !» Puis il hochait la tête. Nous verrons plus tard si le citoyen Saulnier se trompait. Les deux années qui suivirent le départ de René s'écoulèrent pour Sainte, tristes et remplies par d'inutiles efforts. Elle dépensait à mimer peu à peu le courant haineux de son père, plus de patiente adresse qu'il n'en faut à nos diplomates pour minuter leurs amphibologiques protocoles. Elle était sans cesse à son poste, prête à saisir l'occasion de placer un mot en faveur de l'absent. Mais rien ne faisait. La rancune du docteur semblait augmenter, loin de diminuer. Il était au milieu de ses compagnes royalistes comme une vedette de l'armée républicaine. Et plus d'une fois, ses avis amenèrent des colonnes de bleu par-delà les marais et dans le voisinage du château. Les paysans étaient fortement irrités contre lui, mais Sainte était si bonne. Souvent, elle avait recueilli et soigné de malheureux chouans blessés. Plus souvent, les femmes de ceux qui étaient dans les bandes avaient dû à sa générosité le pain quotidien de leur famille. Le docteur, en ces occasions, ne mettait nul obstacle à sa bienfaisance. Il adorait sa fille et se reposait de ses haines dans le spectacle de la perfection de Sainte. Chapitre 3. La croix du carrefour. Par une fraîche matinée du mois de septembre, le médecin bleu et sa fille se mirent en route à pied pour faire une promenade dans la forêt de Rieu. Le citoyen Saulnier, toutes les fois qu'une préoccupation politique n'exaltait point son esprit, était un excellent homme, un peu froid, mais franc, net, et capable de donner à sa fille une éducation irréprochable. Sainte s'appuyait sur son bras. Ils allaient lentement, savourant le charme d'un intime entretien. Insensiblement, la conversation, après avoir effleuré divers sujets, était tombée sur l'abbé Kernas. Le docteur, entraîné par ses souvenirs, parlait avec chaleur des services nombreux et désintéressés que le bon prêtre lui avait rendus autrefois. Sainte l'écoutait et se réjouissait. La pauvre enfant croyait que cet hommage payé à un homme proscrit par la République était une preuve que les opinions de son père devenaient moins extrêmes, moins passionnées. Malheureusement, la pente était glissante et l'ancien curé de Saint-Yon ramena tout naturellement le docteur à ses déclamations favorites. « Il était bon, disait-il, il était vertueux et sa présence était une bénédiction pour le pays. Je l'aimais comme un frère, mais doit-on regretter injuste quand le coup qui l'a frappé l'a jeté à terre et en même temps des milliers de scélérats et de tyrans ?» Ils étaient alors au centre de la forêt de Rieu, à 200 ou 300 pas du château. Sainte, voulant détourner l'entretien, montra du doigt au hasard un objet qui se trouvait au bord du sentier. « Qu'est-ce là, mon père ? » dit-elle. Le docteur leva les yeux. Il s'arrêta, stupéfait. Sainte elle-même tressaillit. Elle se repentit vivement de sa question étourdie. Au centre d'une étoile, formée par le croisement de plusieurs routes, s'élevait autrefois une croix de bois dont les bras et la tête terminés en fleurs de lys avaient éveillé la susceptibilité des bleus. La croix, depuis bien longtemps, gisait à terre sous la bruyère touffue. On l'avait remplacée par un poteau routier surmonté d'un bonnet phrygien. Mais ce jour-là, les choses avaient changé de face. C'était, à son tour, le poteau républicain qui gisait sur l'herbe, et c'était la croix qui, droite et haute, marquait le centre du carrefour. À son sommet, un drapeau blanc livrait ses longs plis à la brise, et la main du Christ tenait un écriteau sur lequel on lisait le cri de guerre des insurgés bretons et vendéens, « Dieu est le roi !»« Dieu est le roi !» s'écria le médecin bleu avec un amer sourire. « Sacrilège alliance du bien et du mal, du sublime et du grotesque. Il faut qu'il se croie bien fort pour oser pousser à ce point l'insolence. »« Ils sont malheureux, mon père, » dit la douce voix de Sainte. « Ne peut-on les plaindre au lieu de les haïr ?»« Les plaindre, » répéta le docteur, dont les sourcils se froncèrent. « Plaint-on le serpent qui vous enfonce au cœur son dard venimeux ? Plaint-on le sanglier qui aiguise ses dents au tronc des chênes et le loup qui attend dans l'ombre sa proie pour la dévorer ? Il s'interrompit et, dominant sa colère, il reprit: Oui, mais je t'effraie, pauvre enfant. Ouais, tu es trop jeune encore pour comprendre tout ce que de sacré la sainte cause que j'ai embrassée, pour sentir tout ce qu'a d'odieux et d'abominable le principe qu'ils défendent. Les lâches! Ils m'ont volé le cœur de mon fils. Malheur à eux! Des larmes vinrent aux yeux de la jeune fille. Pauvre René, murmura-t-elle, il y a 2 ans que nous n'avons pas eu de ses nouvelles. Puissions-nous, s'écria le citoyen Saulnier. Il allait ajouter, ne jamais le revoir, mais son cœur démentit à l'instant ce vœu blasphématoire et il n'acheva point. Sainte, poursuivit-il d'un ton plus calme en lâchant le bras de la jeune fille, cette croix et l'écriteau qu'elle supporte sont de clairs et tristes présages. Oh, une insurrection nouvelle va éclater, je m'y attendais. Les brigands de la Vendée, vaincus au-delà de la Loire, devaient venir chercher chez nous un asile et ces prosélytes retournent seuls à la maison et, préparant toute hâte ma valise, je partirai ce soir pour Redon. Mais ne répugniez-vous donc point, mon père, à ramener de nouveau les milices républicaines dans ce malheureux pays? Dit Sainte. Oh, il le faut. Oh, je vais entrer au château afin de m'entendre avec Verdu. Va. Sainte obéit sans réplique, et le médecin bleu prit à grands pas le chemin du manoir. La pauvre Sainte, au contraire, marchait lentement et la tête baissée. Son cœur se serrait à l'idée de cette nouvelle lutte et des malheurs qui nécessairement devaient être la suite. Comme elle tournait à l'angle de la route, le galop d'un cheval vint frapper ses oreilles. Elle s'arrêta, craintive. Son père avait déjà disparu derrière les grands arbres de la forêt. Le bruit, cependant, approchait rapidement. Bientôt, Sainte aperçut un cheval lancé à toute bride et qui venait vers elle. Sur le chemin était une jeune fille à peine sortie de l'enfance, qui, vêtue en amazone, poussait sa monture avec une sorte de frénésie. Sainte reconnut Marie Brown. La fille du ci-devant Bedeau passa près de son ancienne amie sans s'arrêter. Elle fit de la main un geste de reconnaissance plutôt humain qu'amical, et un fier sourire vint errer sur sa lèvre. Puis elle toucha de sa cravache la croupe fumante de son beau cheval, qui bondit en avant et franchit en 2 sauts l'espace qui la séparait de la route. Sainte répondit au froid salut de Marie par le cordial bonjour du village. Elle ne l'avait jamais vu ainsi parée des atours qui conviennent à une demoiselle des villes. Elle la trouva belle et se sentit venir au front une subite rougeur. Peut-être était-ce le plaisir de revoir une compagne aimée. Peut-être aussi était-ce un vague et fugitif désir de parure. Pour être simple, généreuse et bonne, Sophie n'en était pas moins une enfant. Quand Marie fut passée, elle la suivit du regard et remarqua le fusil double qu'un cordon de soie retenait à l'épaule de la jeune amazone. Elle remarqua aussi que sa toque de velours était surmontée d'une cocarde blanche. Mais où va-t-elle ainsi? se demanda Sainte. Puis se souvenant des demi-mots de son père lorsqu'il venait à parler de Marie, elle ajouta: Mais qui donc est-elle? Chapitre 4 Marie Bond. Grâce à l'achat national qu'en avait fait M. de Vauduit, ou mieux le citoyen Vauduit, le noble château de Rieux n'avait subi aucune dégradation. Il s'élevait entre ses 4 douves, défendues par sa ceinture de remparts 10 fois séculaire, et protégées par 8 tourillons qui flanquaient 2 à 2 chacun des 4 angles de ses ailes. Au-dessus de la grande porte, l'écusson de Rieux. d'azur aux 9 mâcles, accolé d'or, avait été gravé et remplacé par une couche de badigeon. C'était la seule marque qui lui laissait le passage des cohortes républicaines. À l'heure où Sainte reprenait seul le chemin de la maison de son père, il y avait 3 personnages rassemblés dans le grand salon et au manoir. Assis dans un vaste fauteuil, sous le tablier de la cheminée, Jean Brandt en costume de paysan, les 2 pieds sur les chenets, causait avec Monsieur de Vauduit à voix basse. Le riche gentilhomme et le pauvre villageois semblaient se traiter d'égal à égal, et souvent les opinions du premier étaient rudement repoussées par le second. Le 3e personnage portait un large chapeau abattu sur ses yeux, et tout son costume disparaissait sous le manteau qui le couvrait complètement. Étranger à la conversation, il arpentait lentement la salle, il s'arrêtait de temps à autre devant quelqu'un des vieux portraits de famille qui s'alignaient en cordon le long des hauts drambris. Tout à coup, sans qu'aucun des domestiques eût annoncé la venue d'un étranger, 3 coups retentirent à la porte. « Oh, ce ne peut être que le docteur !» murmura précipitamment M. de Vauduit. « Oh, que le diable confonde !» s'écria Jean Brandt, qui se leva aussitôt et, mettant le bonnet à la main, se hâta de prendre l'humble posture qui semblait lui convenir. L'homme au manteau enfonça davantage son chapeau sur son front et se glissa dans une embrasure. Au même instant, et avant que M. de Vauduit eût pris le temps de dire « entrez », la porte s'ouvrit. Le médecin bleu parut sur le seuil. Le citoyen Saulnier avait toujours conservé envers M. de Vauduit les rapports d'amitié qui les liaient autrefois. Il pouvait entrer à toute heure au château et nulle querelle n'avait jamais eu lieu entre lui et l'ancien intendant de Rieux. Mais un observateur eut facilement deviné que ces semblants de bonne intelligence recouvraient une froideur mutuelle. En entrant, le docteur jeta un rapide regard autour de la salle. « Ah, vous n'êtes pas seul, citoyen, dit-il, je vous dérange. » Puis il ajouta mentalement, en regardant le ci-devant Bedeau, « Oh, toujours cet homme !»« Bien le bonjour, monsieur le docteur !» murmura Jean Brandt d'un ton bourru. Et il se mit à l'écart. « Non, loin de me déranger, mon cher docteur, dit monsieur de Vauduit, votre venue me fait grand plaisir. Je comptais me rendre chez vous ce matin. » « Ah ! » fit Saulnier. « Oui, j'avais un service à réclamer de vous. Mais je suis à vos ordres. Moi-même, j'avais également un service à vous demander. »« Mais cela se trouve à merveille, » répliqua M. de Vauduit. « À merveille, en effet, » répéta M. Saulnier. « Puis-je savoir ? » ?»« Oh, c'est une chose bien simple. Jean Bertrand, que voilà, est obligé de s'absenter. » Moi-même, je suis sur le point d'entreprendre un voyage qui sera fort long, peut-être. Ah ? Fit encore Saulnier, dont un sarcastique sourire releva la lèvre. Oui, je voudrais vous prier, continua M. de Vauduit, de prendre chez vous, pendant notre absence, la jeune citoyenne Marie, n'est-ce pas ? Interrompit le docteur. « Oui, mademoiselle Marie, » dit Brandt avec emphase. « Oh, vous avez deviné, cher docteur, oui, il s'agit de Marie Brandt, à laquelle je m'intéresse, plus que je ne puis dire. »« Citoyen, » répondit Saulnier avec sécheresse, « je suis forcé de vous refuser, et vous comprendrez mes motifs. Moi-même, je compte partir ce soir. » Je venais vous prier de donner asile à ma fille jusqu'à mon retour. » Jean Brandt traversa lentement la salle et vint se placer en face du docteur. C'était un personnage assez remarquable que ce Jean Brandt, et il mérite une description particulière. Sa taille était de beaucoup au-dessous de la moyenne, mais elle gagnait en largeur ce qu'elle perdait en longueur. Sa carrure eût fait honneur à un homme de 6 pieds, et son torse, supporté par de courtes jambes de forme peu académique, était un modèle parfait de force musculaire. D'habitude, il tenait les yeux baissés et sa tête se penchait sur son épaule dans une attitude de nonchalante apathie. Mais quand une passion soudainement excitée roidissait ses muscles, son cou se redressait et devenait de bronze. Les veines de son front se gonflaient, ses yeux fauves lançaient un éclair sombre et perçant à la fois. En cet instant, sa physionomie se faisait terrible et puissamment accentuée. Rien de semblable n'existait lorsqu'il traversa la salle pour s'approcher du citoyen docteur. Seulement, sa paupière demi-baissée laissait échapper un regard hostile et moqueur. « Monsieur Saunier, dit-il, ou citoyen, puisque c'est votre idée qu'on vous appelle comme ça, j'ai envie de vous donner un conseil. » « Oh, je vous en tiens quitte, répondit le médecin bleu avec dédain. Jean Bran cligna de l'œil et roula son bonnet entre ses doigts. « M'est avis, reprit-il, que vous avez marché sur une mauvaise herbe, notre maître. Ben, je ne suis pas ton maître. Si je l'étais, mon premier soin serait de te dire « va-t'en ». Vous auriez tort, bon, bon monsieur. Moi, tout au contraire, je vous dis « restez ». Mais que veut dire ce misérable ? S'écria le docteur en s'adressant à monsieur de Vauduit. Mais celui-ci ne répondit que par un geste équivoque qui pouvait se traduire ainsi. Bah, j'ai pas le droit de lui imposer silence. Bah, cela veut dire, reprit Jean Bran en se redressant tout à coup, que vous parlez à un capitaine au service de Sa Majesté le roi de France et de Navarre. Cela veut dire que vous n'êtes pas mon maître, en effet, parce que je suis le vôtre. Cela veut dire enfin que vous avez joué trop longtemps le rôle d'espion de la République dans ce pays et que vos exploits en ce genre touchent à leur terme. Vous êtes mon prisonnier. À cette époque de trouble, chacun portait sur soi des armes. Saulnier, qui était un homme de cœur, voulut résister et mit la main sur ses pistolets. Mais Jean-Bran, le prévenant, appuya sur un des siens contre sa poitrine. « Pas de sang !» s'écria l'homme au manteau, qui se précipita entre eux et les sépara. « Monsieur Bran, pourquoi cette violence ? Donnez-moi vos armes, Saulnier. Je vous engage ma parole qu'il ne vous sera point fait de mal. » Celui qui parlait ainsi releva son chapeau à ces mots et tendit la main au docteur. « Oh, l'abbé de Kernas !» murmura celui-ci. « Oh, j'aurais dû m'en douter. Je suis dans un repaire de chouan. » Ami, répondit le prêtre, vous êtes en effet entre un serviteur de Dieu et un défenseur du trône. À cause de cela, vous êtes en sûreté. » Il fit un geste et Jean Bran remit ses pistolets à sa ceinture. Vauduit était resté spectateur impassible de cette scène. « Ce diable de Bran, dit-il alors, a des façons d'agir tout à fait extraordinaires. Il ne sait pas dire deux mots sans brûler une cartouche. Mon cher Saunier, je vous demande pardon de ce qui arrive, mais ce que vous a dit Bran est la vérité. Vous êtes son prisonnier. Et comment vous aussi ? Oh, moi, plus que personne, poursuivit Vauduit. Je n'ai pas changé d'état. Je suis comme autrefois, le serviteur de la maison de Rieux, rien de plus. Mais de quel droit ? Permettez. Le droit est positif. Brant a prononcé un mot fâcheux et juste. Vous faites parmi nous le métier d'espion, mon très cher Saunier. Celui-ci voulait se récrier. Permettez, poursuit M. de Vauduit avec la même froideur. Vous êtes un honnête homme, je le crois, et je vais vous en donner bientôt une preuve. Mais il n'en est pas moins vrai que vous comptiez partir ce soir pour Redon, afin de dénoncer. Mais je l'avoue, interrompit Saunier, je fais plus, je m'en glorifie. Chacun prend sa gloire où il la trouve, mon cher Saunier, mais en bonne conscience, votre aveu suffit pour modifier la conduite du capitaine Brand. Et sans notre excellent curé, qui a mieux aimé jeter bas son incognito, que de permettre... Mais me croyez-vous assez lâche pour le dénoncer ? Oh non, je ne prétends point cela. Quoique Brand fasse dans son coin une grimace significative, mais brisons-la. Voulez-vous être libre ? Mais quelles sont vos conditions ? Oh, peu de choses. Vous me rendrez le petit service que je réclamais de vous au commencement de cette entrevue. C'est-à-dire, bien vous recevrez chez vous, Marie Brand, en promettant sous serment, oh, je crois votre parole, moi, en promettant de la traiter comme votre fille et surtout de ne point aller à Redon. Saulnier se prit à réfléchir. À ce moment, on entendit ouvrir la porte extérieure du château et les pas d'un cheval retentirent sur le pavé de la cour. L'hésitation du docteur ne dura pas longtemps. « Ni l'un ni l'autre, répondit-il. En sortant d'ici, le premier acte de ma liberté sera de partir pour Redon. » « Voilà qui est parlé, » murmura Jean Brandt. Le prêtre haussa les épaules en soupirant. « En outre, » poursuit Saulnier, « je ne souffrirai jamais que le toit qui abrite ma fille soit souillé par... »« Silence !» s'écria Brandt d'une voix menaçante. « Silence, en effet, maître Saunier, » dit M. de Vauduit, perdant tout à coup son ton de froideur. « Si j'ai deviné ce que vous alliez dire, vous feriez bien de recommander à Dieu votre âme avant d'achever tout haut votre pensée. » L'ancien curé de Saint-Yon s'approcha de nouveau du docteur. « Monsieur Saunier, » dit-il, « nous étions autrefois amis et j'espère que vous m'avez gardé votre estime. » « Mais mon estime et mon amitié, citoyen Kervas, » dit le docteur en lui tendant la main. « Eh bien, » reprit le prêtre, « ayez égard à ma prière. Consentez à rester neutre dans ces tristes combats et à donner asile à Marie Brandt. » Avant que le docteur eût pu répondre, il se fit un léger bruit à la porte. Personne n'y prit garde. « Mais jamais !» s'écria le citoyen Saunier. « Je suis républicain et je servirai la République jusqu'à ma mort. »« Ainsi vous refusez de recevoir Marie Brand, » prononça lentement M. de Vauduit. « Oui, je refuse. » Vauduit tira le cordon d'une sonnette et deux paysans armés jusqu'aux dents parurent sur le seuil d'une porte latérale. Mais au même instant, la porte d'ouvrier s'ouvrit avec fracas et Marie Brand s'élança dans le salon. Une vive rougeur colorait sa joue. Son œil brillait d'un éclat extraordinaire et ses sourcils froncés donnaient à sa physionomie une expression de sauvage et impérieuse rudesse. À son aspect, M. de Vauduit, Jean Brand et le curé lui-même se découvrirent respectueusement. Elle ne répondit point à leur salut. « Que signifie cela, messieurs ? » dit-elle en entrant d'une voix courroucée. « Depuis quand la fille de mon père a-t-elle besoin qu'on sollicite pour elle un asile ?»« Mais notre demoiselle, » murmura humblement Jean Brand. « Paix, je vous avais fait connaître mes volontés. Vous saviez qu'il me plaisait de suivre l'armée royaliste et de combattre dans les rangs des fidèles soutiens du trône et de l'autel. Est-ce un complot que vous tramiez contre moi, messieurs ?»« Mademoiselle, » dit Vauduit, « si c'est un crime d'avoir voulu mettre à l'abri votre précieuse personne. » « Mais est-ce donc la fille d'un roi ?» se demanda Saunier. Et en effet, à voir le geste impérieux et la pose pleine de majesté de cet enfant de 13 ans, devant laquelle s'inclinaient les trois hommes, une pareille question était permise. Si Marie n'était pas de prince royal, du moins devait-elle être d'une bien illustre naissance, pour que son caprice fût ainsi accueilli par le respect et l'humilité. Le prêtre, néanmoins, parut bientôt se souvenir que son ministère était au-dessus de toute distinction sociale. « Ma fille, dit-il d'un ton ferme, vous êtes bien jeune, qu'importe. Mais peu importe, en effet, eussiez-vous l'âge d'une femme, votre place serait prête au milieu des camps. N'est-ce point assez des hommes pour répandre le sang dans cette déplorable querelle ?» Marie écoutait, le front haut. Un sourire impatient et railleur précéda sa réponse. « Mon père, dit-elle, je suis femme, je le sais. C'est un malheur, mais monsieur mon cousin de Rieux, marquis de Sourdéac, est mort en exil. Je suis le dernier rejeton de la plus illustre maison de Bretagne. Et par la Vierge, ma sainte patronne, je dis, foi de mon sexe, et je porte l'épée. Il ne faut pas, voyez-vous, que l'héritage de Rieux tombe en quenouille. » « Bravo !» murmura Jean Bran, dont l'œil rayonna d'enthousiasme. « Que Dieu ait pitié de vous, ma fille, dit le prêtre, car votre cœur est plein d'orgueil. » Et il se retira lentement. Le docteur était né vassal de Rieux, involontairement saisi par le souvenir de tous les bienfaits dont cette noble race avait de tout temps comblé le pays, il se découvrit à son tour. « Citoyenne, balbutia-t-il avec embarras, j'ai refusé asile à Marie Brand, mais Marie de Rieux. » Assez, monsieur, interrompit la jeune fille avec mépris. Je ne veux point vous dire ce que je pense de vous, car Sainte, votre fille, fut mon amie. Et René, votre fils, est un digne soldat du roi. Mais si vous eussiez accepté l'offre que ces messieurs ont eu la faiblesse de vous faire, j'aurais refusé, moi. Allez, monsieur, allez continuer votre rôle. Il n'y a pas loin d'ici à Redon, et vous êtes libre. Libre, répéta le médecin bleu au comble de la surprise. Notre demoiselle l'a dit, grommela Jean Bran avec résignation. Qu'il soit fait suivant sa volonté, ajouta M. de Vauduit. Saulnier salua profondément Marie de Rieux et fit un froid signe de tête à Vauduit. En passant près de l'abbé de Kernas, il lui tendit de nouveau la main. « C'est une noble enfant, » dit-il à voix basse en désignant Marie. « Monsieur Saulnier, » répondit le prêtre, « remerciez Dieu, car il vous a donné une fille qui a toutes les vertus de son sexe et qui n'a que celle-là. » Quant à Jean Bran, il suivit le docteur jusqu'au seuil d'un regard haineux et plein de rancune. « Il va nous dénoncer, » pensa-t-il. « Mais nous serons loin demain, et je veux que le loup me croque s'il retrouve autre chose qu'un tas de cendres à la place de sa maison. »